Oh, alléluia. Je vous prie de vous rasseoir. Le Seigneur est présent parmi nous. Après l'avoir encensé avec notre adoration, notre louange, après avoir assumé notre première vocation, celle de l'adorer en esprit et en vérité, tout en étant sûr, tout en ayant cette assurance qu'il a entendu, qu'il a accueilli favorablement nos prières, nous voulons maintenant lui laisser la place de nous parler. Nous savons tous combien la parole de Dieu est importante, combien elle occupe une place majeure dans un culte évangélique comme celui-ci, dans une célébration comme celle-ci. Et nous allons donc nous préparer à recevoir le message de sa parole. Nous inclinons simplement nos têtes dans la prière. Chacun demande à Dieu de le préparer à recevoir sa parole, de renouveler notre intelligence pour nous rendre capables de saisir sa parole, de l'assimiler, de la mettre en pratique, lui demander qu'il nous accorde cette grâce de voir cette parole se cristalliser en nous et finir par nous impacter, finir par induire une conduite, un comportement digne de lui. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes qui mangent régulièrement ta parole, car par cette parole, Seigneur, tu nous accordes tout ce dont nous avons besoin pour une vie plus que victorieuse, plus qu'épanouie. Au travers de ta parole, tu te révèles toi-même à nous. Dans ta parole, il y a tous les nutriments indispensables, Seigneur, dont nos âmes, nos esprits, nos corps ont besoin. Parle-nous ce matin, pose ta main sur ton serviteur, fortifie-le. Seigneur, tu vois que depuis qu'il est parmi nous, il ne cesse, Seigneur, d'être un outil entre tes mains pour la bénédiction des uns et des autres. Après cette longue journée d'hier, ton serviteur a besoin de ta grâce, a besoin de ta force. Alors parle-nous au travers de lui, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Bien. Une brève présentation de l'orateur, du pasteur Yanis Gauthier, que nous connaissons très bien, puisque ce n'est pas la première fois qu'il va intervenir dans une célébration dominicale comme celle-ci. Il avait déjà été avec nous dans le passé, et il est parmi nous, il n'est pas seul, il est accompagné du pasteur Eric, qui aujourd'hui est allé prêcher dans une de nos extensions chez le pasteur David Moutoualé, et donc à Boumbou. Et le vendredi, il était déjà avec nous, celui qui a prêché la parole de Dieu, qui a annoncé l'Évangile. Et il a accompagné l'annonce, la proclamation d'Évangile par son propre témoignage, comment le Seigneur l'a ramassé là où il était, en pleine détresse, comment il a lavé, il a purifié, il a transformé pour en faire un outil de bénédiction pour les autres. Et puis ensuite, il a déposé sur son cœur un appel. Et par rapport à cet appel, le Seigneur lui donne l'occasion d'aller un peu partout à travers le monde. Et aussi un appel particulier, un milieu carcéral, parmi les prisonniers. Car lui-même, comme il nous l'a dit, comme certains d'entre nous le savent, il a aussi connu la prison, il a connu aussi ces lieux de détresse, ces lieux qui, quelque part, est un lieu qui n'a jamais été fait pour l'homme, l'homme correct, l'homme droit, l'homme juste, l'homme qui marche avec Dieu, mais un endroit terrible et horrible. Et depuis, c'est ainsi que nous avions harmonisé sa venue ici pour notre action à Makala, et hier, ça a été formidable. Nous avons vu beaucoup, beaucoup de prisonniers se donner au Seigneur. Nous avons eu à prier, Et certains ont remis leur gris-gris, leur fétiche, des amulettes, des chaînettes qu'ils avaient. Et nous avons rendu grâce au Seigneur pour tout cela. Et donc aujourd'hui, il est avec nous, il est marié, il est père d'une famille plus que nombreuse. Un homme de foi. Je vous prie d'accueillir le pasteur Yannick. Merci.
Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je ne vais rien rajouter sur ce que le pasteur a dit, simplement, premièrement, le remercier, lui, son épouse et tous les responsables de me permettre d'être là pour cette semaine avec vous. Et puis également en profiter pour remercier, et je crois que nous pouvons applaudir toutes les personnes qui ont été des acteurs à cette campagne d'évangélisation dans la prison. Ce n'est pas le rôle d'un homme, c'est le travail d'une équipe pour la gloire de Dieu. Et j'ai vu beaucoup d'églises et même des chefs d'État me parler de prison, mais je n'ai jamais vu une église comme celle-ci autant présente, autant engagée en prison. Vous pouvez vous applaudir. Je parcours les églises, je vis par la foi les actions que nous menons en prison, on les partage et souvent c'est toujours la même chose, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Mais quand nous voyons des pasteurs engager des finances dans les prisons, alors nous comprenons que ces pasteurs, comme votre pasteur, est imprégné, saisi de la vision de Dieu. Parce que hier, si Dieu voulait nous voir dans un endroit, c'est bien dans cette prison horrible. Et j'ai vu également, puisque je découvre cet aspect chez votre pasteur, c'est un évangéliste en puissance. Et il m'a confirmé que oui, avant il était évangéliste et il l'est toujours. Mais c'est également un excellent berger pour lequel vous devez prier pour sa famille. Auparavant, je vivais une vie monotone. En fait, j'avais une relation avec Dieu qui était plate. C'est-à-dire que j'avais donné ma vie à Christ. Il n'y avait pas vraiment de changement probant dans ma vie, mais quand même, je me considérais comme un chrétien. Il y a une différence entre un chrétien et un croyant. Donc, j'étais un chrétien. Et je n'avais pas forcément envie d'aller à l'église le dimanche, parce que je travaillais toute la semaine. Je n'avais pas franchement une vie de prière, je ne lisais pas franchement la parole de Dieu. Mais, il y a un mais, il arrivait que mon épouse, le samedi soir, c'était d'ailleurs régulier, quand je rentrais à la maison, elle était en train de repasser une chemise. Et là, il y avait tout un message. Ça veut dire que demain, je suis dans l'obligation d'aller à l'église. Et franchement, je n'avais pas envie d'aller à l'église. Mais j'étais contraint, forcé d'aller à l'église pour ne pas avoir de problème avec madame. Personne n'est dans mon cas ce matin. Levez la main. Et en fait, l'église, quand j'étais au culte, c'était le moment pour moi de prendre des fous rires. Des fous rires. Je pleurais de rire parfois en entendant certains parler dans une langue que je ne comprenais pas. C'est de l'anglais, c'est de l'arabe, c'est du turc, c'est de l'inga, je ne sais pas. Mais ils parlaient en langue. Et quand je voyais des personnes louées, adorées, magnifiées, quand je voyais des personnes passer tout un week-end dans l'église, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Et puis un jour, j'ai été foudroyé, touchés, saisis, plaqués au sol par le Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit a révolutionné ma vie. J'ai compris que ce qui me manquait était sa présence. Parce que sa présence fait la différence. Ce matin, vous l'aurez compris, je vais vous parler brièvement du Saint-Esprit. Et en fait, depuis que le pasteur m'a invité, j'avais ce message sur le cœur. Dieu me disait, parle du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que c'est commun, on parle du Saint-Esprit à la Pentecôte. La Pentecôte étant simplement une date dans le calendrier. En réalité, chaque jour, tu peux vivre ta Pentecôte. Prochainement, je sortirai un livre qui s'appelle « Le Saint-Esprit, le célèbre inconnu ». Tout le monde parle du Saint-Esprit, mais très peu le connaissent. C'est vrai, quoi. Chacun d'entre nous, nous avons peut-être lu des livres sur le Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, nous avons entendu des sermons sur le Saint-Esprit, mais très peu expérimentent au quotidien sa présence. Pourtant, il est essentiel pour toi de comprendre que le Saint-Esprit est présent. Il nous a précédés dans cet endroit et c'est lui qui nous conduit dans l'adoration. C'est lui qui ouvre nos cœurs à la parole de Dieu. C'est lui qui bouleverse, change, transforme notre vie au quotidien. Jean 10, verset 10, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dis avec moi, abondance. Alors, je ne te parle pas des richesses financières qui te projettent dans un pavillon à Miami au bord de la plage. Je te parle de l'abondance spirituelle. Le Saint-Esprit ne va pas t'apporter d'or et de l'argent. Il va t'apporter de l'abondance spirituelle. Il va enrichir ta vie. Il va bouleverser ta vie. Il va te permettre d'expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. Jean 16, verset 7, Jésus-Christ parle à ses disciples et il dit, « Je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » À cet instant, les disciples ne peuvent pas comprendre ce que Jésus est en train de leur communiquer. Parce que leur seul désir est de rester avec le Seigneur jusqu'au bout. Et quand il parle du Saint-Esprit, la compréhension des disciples se réfère à l'Ancien Testament où le Saint-Esprit visitait un peuple, un homme, où le Saint-Esprit se manifestait de manière temporaire. Et là, ce que Jésus est en train de leur dire, c'est « Je vais rester avec vous. Ma présence au travers du Saint-Esprit va vous accompagner au quotidien. Je vais faire de vous les temples du Saint-Esprit. » Et ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Voilà pourquoi certaines paroles du Seigneur n'ont pas été saisies par les disciples. Par exemple, quand Jésus va leur dire, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais c'est une mission impossible. Quand Jésus leur parle, il est en train de leur annoncer ce qu'ils vont faire après son départ. Mais comme les disciples reçoivent ces paroles de manière humaine, ils ne peuvent pas comprendre l'impact de la parole de Jésus. Alors ils ont dû se dire, ce n'est pas possible. Pasteur, je sens que le Saint-Esprit est en train de m'agiter. Ils ne peuvent pas saisir Comment on va aller aux extrémités de la terre? Comment on va aller au Congo? On est sur le dos d'un âne. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture. Comment on va proclamer le message de l'Évangile? Par quels moyens? Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de presse écrite, il n'y a aucun moyen de communication. Les disciples ont dû penser que ce que Jésus leur demandait était une mission impossible. Oui, mais... Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus-Christ leur dit comment ils vont pouvoir accomplir cette mission, le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier la présence du Saint-Esprit. Il ne faut jamais négliger la présence du Saint-Esprit. Il est là avec nous. Il est là avec toi. Il est ton ami, ton consolateur, celui qui te guide, celui qui t'enseigne, celui qui te restaure, celui qui guérit ton cœur, celui qui t'accompagne, celui qui te maintient en communion, en relation étroite avec Dieu. Il est là pour toi. Je l'ai tellement vu. Tellement vu. Hier à la prison, je l'ai vu parler à des enfants. Toucher leur cœur. J'ai vu ces enfants se donner à Jésus. Hier à la prison, j'ai vu le Saint-Esprit parler à des adultes malades, affligés. J'ai vu des gars prier la bouche dans la poussière, saisis, touchés par l'amour de Dieu. Hier, j'ai vu le Saint-Esprit parler à des gars qui avaient des gris-gris, venir se repentir, jeter leur talisman. Oui, j'ai vu le Saint-Esprit agir, je l'ai vu tant de fois. Alors, j'aimerais ce matin simplement, à travers de quelques points, m'entretenir avec vous sur le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Et la première chose, c'est qu'il nous apprend à connaître Dieu. Jean 14, verset 26, il est dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 12, il est dit ceci, « Car qui connaît les pensées d'une personne, sinon son propre esprit en elle ? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions ce que Dieu nous a donné gratuitement. » Car, Ésaïe 55, verset 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Il est donc important, aujourd'hui, plus que jamais, de connaître Dieu. J'aime ce chant qui a été chanté. Il y a plein de faux dieux, mais nous, nous avons choisi de servir le Dieu de la Bible. C'est tellement beau, Lingala. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu croises des personnes qui sont en train de se disputer en Lingala, le fait d'entendre cette langue, tellement elle est belle, c'est agréable. Le Saint-Esprit nous apprend à connaître Dieu. Je te pose une question. Est-ce que tu connais Dieu ? Avant la pandémie Covid-18, beaucoup de personnes pensaient connaître Dieu. Et puis la pandémie a touché la planète tout entière. Tout le monde a été confiné à la maison. En Europe, en tout cas. Et là, on regardait la télé et on voyait des personnes nous dire « Le Covid-19 peut être transmis par les animaux. » Je regarde mon chien, il me dit « Si vraiment ça se passe, je crois que tu ne vas pas vivre longtemps. » Le Covid-19 peut être véhiculé au travers de la presse, au travers des lettres. Alors quand j'allais chercher une lettre dans ma boîte aux lettres, c'était dans un habit de cosmonaute. Je donnais après les habits à mon épouse, machine à 90 degrés, j'allais prendre une douche à l'eau de Javel. Bref, et puis à un moment donné, je me suis dit, Yanis, mais tu vas devenir fou avec tout ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui éternue à côté de moi, je faisais ma prière de repentance, je me pensais que j'allais mourir. Mais c'était terrible, terrible. Ils ont sorti le vaccin. Les gens sont fait vacciner 20 fois avant d'apprendre qu'il y avait des problèmes avec le vaccin. Et en réalité, pour moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Parce qu'à un moment donné, quand je lis la Bible, quand je lis le livre des psaumes, je m'aperçois que Dieu est capable de me préserver de la peste. Alors, plutôt que de m'inquiéter, je me suis retranché dans la présence de Dieu. Et pour moi, ce confinement humain est devenu un confinement divin. Il fallait impérativement que Dieu reprenne sa place dans mon cœur. La place de Dieu dans mon cœur à la place de celle du monde. Est-ce que tu connais Dieu? Je te pose une question. Sais-tu qui est Dieu? Le Saint-Esprit est là pour te rappeler qui il est. On raconte l'histoire de deux personnes. Le premier, c'est un acteur. Le second, c'est un vieux pasteur de brousse. Ces deux personnes se retrouvent dans une conférence et on va leur demander de réciter le psaume 23. Le premier qui se présente devant la foule, c'est l'acteur. C'est la grande classe, la bogosité. Un peu comme toi, mon frère. Il arrive, il a de l'aisance, de l'éloquence, il récite le psaume 23 et à la fin, tout le monde est debout en train d'applaudir. Et puis, c'est au tour de ce pasteur de brousse. Lui n'a jamais prêché devant une foule. Son ministère pastoral, c'est du one-to-one. Il va voir ses brebis, il en prend soin, il prie pour elles, il nourrit ses brebis et il ne les dépouille pas, il ne les tombe pas. C'est un pasteur. Il a une Bible usée, il l'ouvre, il ne sait même pas comment s'allume le micro, et il commence à réciter le psaume 23. À la fin, personne n'applaudit, mais tout le monde est en larmes. Et à la sortie, il y a un journaliste qui pose cette question à l'acteur, « Mais pourquoi lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi, et lorsque c'était au tour de ce pasteur, tout le monde était en larmes ?» Alors l'acteur dira, « Bah c'est simple. » Moi, je connaissais le texte, mais lui, il connaissait son berger. Je pourrais faire tout un séminaire sur ces réalités. Te parler de l'inquiétude, arrête de t'agiter, arrête de courir dans le monde. Quand tu as un besoin, tourne-toi vers ton berger, il est celui qui répondra à tous tes besoins avec gloire et richesse. Je pourrais faire tout un séminaire sur cette thématique. Quand tu es malade, au lieu de t'agiter, dès que tu vois un rapport médical, tourne-toi vers ton berger, il promet de te guérir. Quand tu as un problème avec le péché, Dieu promet de te délivrer, Dieu promet de t'accompagner. Dieu sera toujours à tes côtés. Même si le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera jamais. Le Saint-Esprit se charge de nous conduire dans la vérité. Dites avec moi vérité. Vérité, ce n'est pas mensonge. Mensonge, ce n'est pas vérité. Je dis vérité, ce n'est pas mensonge. Mensonge, ce n'est pas vérité. Jean 16, verset 3. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Aujourd'hui, l'hérésie est rentré dans la conscience des chrétiens à l'heure des réseaux sociaux, l'évangile est devenu un business. Et quand l'évangile est un business, la vérité est en solde. Mon ami, c'est pas parce que je prends le micro et que je te dis, femme, tu vas enfanter cette année, femme, tu vas te marier cette année, alors qu'il y a 1000 personnes, 2000 personnes, que ça fait de moi un prophète. C'est pas parce que je vais te dire que tu vas devenir millionnaire demain, que ça fait de moi un prophète. En réalité, aujourd'hui, l'homme, la Bible dit d'ailleurs dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement véritable, mais au gré de leurs désirs, ils choisiront une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour prêter attention à des fables, à des tromperies, à des mensonges. C'est pas parce que tu as des millions de followers sur les réseaux sociaux que tu dis la vérité. Quand tu es à la recherche de la vérité, où tu vas chercher la vérité? Au milieu des mensonges, de l'ivraie, de l'hérésie? Ou vas-tu dans la parole de Dieu? La parole de Dieu est la vérité. Je dis que la parole de Dieu est la vérité. Et si tu as besoin de connaître la vérité, alors va la chercher dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas simplement celui qui nous conduit dans la vérité. Il est également l'auteur de la vérité. Et aujourd'hui, le monde prête attention à tout ce qui plaît. Aujourd'hui, le monde se tourne à tout vent de doctrine. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas lire la parole de Dieu. Alors, ils ne connaissent pas la vérité. Et ils sont embarqués dans tout un tas de choses où finalement on fait d'eux des esclaves. On les manipule psychologiquement, on les dépouille. Le Saint-Esprit ne va jamais te dépouiller, mais il sera toujours là pour t'enrichir avec la vérité. Arrête de chercher la vérité sur les réseaux sociaux. Arrête de chercher la vérité, la réponse à tes besoins en allant fouiller dans le monde. Retranche-toi dans la présence de Dieu et demande au Saint-Esprit de te communiquer la vérité. Quand un besoin se présente, le diable est là parce qu'il connaît ton besoin. Il connaît ta faille, il connaît tes réalités et il sera toujours là pour te tenter comme il l'a fait pour Jésus-Christ. Après 40 jours de jeûne et de prière, le diable se présente et le tente. Chacun de nous, on fait face à des attaques de l'adversaire. Chacun de nous, lorsqu'on fait face à un besoin, le diable est là pour nous tenter. Mais j'aimerais te dire, quand le Saint-Esprit te parle, il te convainc de la vérité. Et cette vérité est la seule arme que tu dois brandir contre les assauts destructeurs de l'ennemi, le menteur, le père du mensonge. Le psalmiste disait, dans le psaume 27, verset 11, « Enseigne-moi, Éternel, ce que tu veux que je fasse et conduis-moi sur un sentier sûr. » Beaucoup de chrétiens se sont égarés parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire sur les sentiers de Dieu. Beaucoup de chrétiens se cherchent, tournent en rond parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire. Alors ils se perdent. Il serait peut-être temps pour toi de comprendre, de réaliser que le Saint-Esprit connaît ta vie. Il connaît également les plans de Dieu te concernant et il veut t'y conduire. Arrête de chercher dans le monde la réponse à tes besoins, la réponse à ton avenir. Va dans la présence de Dieu et demande au Saint-Esprit de te conduire dans l'abondance, dans les projets de Dieu. Et il le fera. Et il le fera. Il y a beaucoup de chrétiens qui, à un moment donné de leur vie, ils sont en âge de se marier et ils sont trompés par ce qu'ils voient au lieu d'écouter la voix du Saint-Esprit et de laisser le Saint-Esprit les conduire sur la personne que Dieu a créée pour les accompagner. Ils se laissent séduire par la chair. Et résultat, ils se marient devant Dieu et ils vivent l'enfer dans leur mariage. Et cela se solde par un divorce. J'aimerais te dire que Dieu ne sponsorise pas les divorces, les fiascos, les échecs. Dieu veut te conduire dans l'abondance. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Et l'histoire de Dieu, elle est belle, elle est grande, elle est glorieuse. Le Saint-Esprit nous change, nous rend semblables à Christ. Et ça, c'est tellement important aujourd'hui que tu puisses réaliser que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans un processus de changement, de transformation. Il veut t'amener à ressembler à Christ. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Demande à ton voisin qui tu fréquentes, toi. Il y a des gens qui aiment, souvent dans les couples, on aime se dire, t'as pas changé, toi, finalement. Ça fait 10 ans que je marche avec Dieu, mais il n'y a rien qui a changé chez moi. Moi, je suis venu il y a 5 ans, il y a forcément quelque chose qui a changé chez moi. En bien, pas en mal. Parce que lorsque le Saint-Esprit travaille dans nos vies, c'est pour nous faire progresser, nous amener vers le haut. Mais s'il n'y a rien qui change, il y a un problème dans ta vie. En réalité, le problème ne vient pas de Dieu, mais c'est ton attitude qui bloque le changement que Dieu veut opérer en toi. Si ça fait 10 ans, 20 ans que tu te débats, que tu luttes avec le même péché, le problème ne vient pas de Dieu, ça vient de toi. Si tu es encore colérique, tu es la vieille personne qui avait ses habitudes, ses travers colériques, rancunières, toujours en colère, qui ne pardonne pas, toujours qui fait la grimace, c'est qu'il y a un problème dans ta vie, tu ne laisses pas le Saint-Esprit changer, transformer ta vie. Si les gens en te voyant ne sont pas attirés par la présence de Dieu qui reflète sur ta vie tout entière, c'est qu'il y a un problème. Si au travail tu as une réputation de quelqu'un qui est dur, qui n'arrive pas à pardonner, qui manque d'empathie, de compassion, c'est qu'il y a un problème. Moi je vais te dire, j'avais plein de problèmes. Comme je le disais vendredi, on aurait pu m'appeler problème. Et l'un des problèmes que j'avais au début, c'était avec l'alcool. Et j'étais alcoolique, mon père était alcoolique, ma mère était alcoolique, les médecins ont dit « je vais finir alcoolique ». C'est comme ça, c'est dans mon patrimoine, mon héritage génétique. Et ils ne se sont pas trompés. Je vous assure, j'étais un poivreau. Et donc comme j'étais un poivreau, je traînais dans des bars avec des ivrognes. J'étais également un drogué. Comme j'étais un drogué, je traînais avec des drogués. J'étais un voleur. Quand tu es un voleur, tu ne traînes pas avec des gens qui travaillent, tu traînes avec des voleurs, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. J'étais un escroc, il n'y en avait pas deux comme moi. Enfin, bref, j'avais un tableau très sombre. Et enfin, ma belle-mère avait l'habitude d'aller voir une diseuse de bonne aventure. Et quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais aussi été imprégné de cela, dans le sens où il y avait un sorcier qui s'appelait Colombo. Et ce sorcier-là, on se racontait des histoires sur lui, te disait si, il te serre la main, il t'envoûte, t'es mort. Il marche avec une lampe à huile, dès qu'il fait ça, il voit tout ce qu'il y a dans ton corps. Et on avait peur de lui, mais en fait, dès qu'il faisait son apparition, tout le monde courait. Tout le monde courait dans le village, ma grand-mère m'attrapait dans la case, on fermait la... Bref, même un soir, j'étais aux toilettes, je l'ai vu, après j'ai vu un crapaud, j'ai dit, il s'est transformé en crapaud. Donc, tout ça pour vous dire que des années plus tard, quand j'ai été confronté à mes problèmes, j'avais envie de m'en débarrasser. Et nous, en France, on a des marabouts. Et leur système de communication, c'est qu'ils vous mettent une carte de visite dans votre boîte aux lettres. Et un jour, je tombe sur une carte de visite. Mamadou, quel que soit votre problème, je le solutionne. Je vous passe les détails, si vous avez des problèmes de fertilité, bref, il est capable de faire de vous un Terminator. Et j'ai dit, ça c'est ça qu'il faut. Alors, je vais voir Mamadou. Mamadou, j'ai des problèmes. Je bois de l'alcool, je suis violent, bref, ma vie c'est une galère. Et là, il me donne un talisman. Et il me demande de l'argent, bien sûr. Je pars avec le talisman. Et en fait, je m'aperçois que j'avais des problèmes, mais maintenant avec ce talisman, j'ai encore plus de problèmes. Alors, je repars voir Mamadou. Et Mamadou, je ne sais pas ce qu'il m'a donné comme talisman, mais vraiment, ce n'est pas suffisant, hein, parce que mes problèmes ne font que s'aggraver. Je ne change pas. Et là, Mamadou me fait carrément une ceinture, et il me donne des gris-gris partout, j'ai des pattes, et il me dit, ça là, avec ça tu marches. C'est un gilet pare-balles. Même si on te tire dessus, ça passe pas. Peu importe ce qu'on te fait subir, il n'y a rien qui va rentrer, t'es un Terminator. C'est vrai, Mamadou? Tiens. Mon ami. J'ai pris 3 coups de couteau, on m'a tiré dessus plusieurs fois, j'ai failli mourir. À un moment donné, et quand j'arrive au paroxysme de ma déchéance, je suis en prison et je pense à tous ces talismans. Et finalement, quand je suis confronté à la parole de Dieu, je réalise que, en fait, mon protecteur, celui qui est capable de me préserver, de me changer, de solutionner mes problèmes, c'est Dieu. Au travers du Saint-Esprit, j'ai vu les mains de Dieu agir, me retaper, me requinquer, me délivrer, me rebâtir. Le résultat, c'est que aujourd'hui, quand je vais voir des voleurs, je n'y vais pas en tant que voleur, en tant que prédicateur de l'Évangile. Résultat, c'est que aujourd'hui, eh bien, je ne traîne plus dans les boîtes de nuit. Je suis à l'église, la borne, en train de louer et d'adorer mon Seigneur, parce que le Saint-Esprit m'a changé. Alors, si tu souhaites changer, laisse-le faire et laisse-toi faire. Dis à ton voisin, laisse-le faire et laisse-toi faire. Laisse-le faire et laisse-toi faire. Mon dernier point, le temps passe. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas, n'ont jamais prié. Ou alors quand ils prient, ils ont le syndrome de la prière blanche. Ils ne savent pas quoi demander à Dieu. Ou alors, il y a beaucoup de chrétiens qui sont écrasés par l'épreuve, dans un état de faiblesse, et ils n'ont plus la force de prier. En fait, quel que soit le point dans lequel tu t'identifies, j'aimerais te dire que quand tu comprends la puissance de la prière, cela fait de toi un homme et une femme de prière. Tu réalises que tout commence, tout finit, les plus grandes victoires, les plus grandes batailles sont obtenues, sont le résultat de tes prières. Tu réalises qu'au travers de la prière, tu peux vivre des choses incroyables et inimaginables. Tu peux expérimenter le surnaturel, le divin dans ton quotidien. Le Saint-Esprit te pousse à te connecter à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui paient même des billets d'avion pour aller se faire imposer les mains. Mais Dieu te dit, si tu veux me parler, rentre dans ta chambre, ferme la porte, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la présence de Dieu? Je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la présence de Dieu? C'est bien que des pasteurs, que des frères et sœurs prient pour toi. Mais c'est encore mieux d'entretenir une véritable communion avec Dieu. Il y a trop de barrières entre toi et Dieu. Trop de barrières. Trop de croyances limitantes. Hey, j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas créé pour la religion, mais pour la communion. Arrête d'être religieux. Viens comme tu es dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ne sois pas religieux. Je me souviens, Romains 8, verset 26, de même l'Esprit vient aussi. Nous vient aussi en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements trop profonds pour être exprimés. Eh, le Saint-Esprit a un accès direct dans la présence de Dieu. Un accès direct dans le Saint des Saints. Auparavant, il y avait tout un tas de rituels pour le grand sacrificateur, pour offrir des holocaustes, pour le peuple. Mais aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous avons un accès direct dans la présence de Dieu. Faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe l'épreuve, il faut que tu ailles chercher ta bénédiction dans la présence de Dieu. Et même si tu n'as pas la force de prier, le Saint-Esprit est là pour présenter ta requête à Dieu. Par des soupirs inexprimables. Je me souviens, je termine là-dessus. Je racontais l'histoire de ma famille, combien Dieu nous a bénis avec des enfants. Et quand mon épouse a accouché de notre petite fille au mois de décembre, le 22 décembre, le 31 au soir, elle est saisie par un terrible mal de tête. Je l'amène à l'hôpital, le médecin fait passer un scanner et il me dit, elle vient de faire une rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme suite à l'accouchement. Et là, je suis désemparé, déstabilisé, à terre. Le médecin me dira, on va la conduire au bloc opératoire et on ne sait pas dans quel état elle va ressortir. On ne sait pas si elle aura toutes ses facultés psychologiques, motrices. Bref, elle peut mourir. Et je me pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Tu me donnes un enfant et je me retrouve dans cet état. En fait, il y a plein d'incompréhensions, tellement d'incompréhensions que j'oublie qui est Dieu. Et je n'ai même pas la force de prier. Je n'ai même pas la force d'invoquer Dieu. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ma femme dans un cercueil. Et puis, à un moment donné, j'entends la douce voix du Saint-Esprit qui me parle. J'entends la douce voix du Saint-Esprit qui vient réconforter mon cœur. J'entends la douce voix du Saint-Esprit qui commence à intercéder. En langue, balata balachete qu'elle était belle et chère. Je ne sais pas ce qu'il est en train de raconter à Dieu, mais je sais une chose, c'est qu'il est en train de plaider ma cause. Il est en train de demander une intervention de secours. Il est en train de demander un miracle. Il est en train de demander la guérison. Il est en train d'intercéder pour moi. Résultat. Au bout de 3 semaines, ma femme ressort de l'hôpital intacte et sans aucune séquelle. Aujourd'hui est le jour où tu dois prendre conscience de sa présence. Et nous allons nous lever, nous allons prier, tu vas demander au Saint-Esprit peut-être pardon de l'avoir attristé, négligé. Et puis ensuite, on va prendre une décision ensemble, celle de ne plus jamais oublier sa présence, celle de cultiver, d'entretenir, de maintenir une relation étroite, intime avec lui. Lève-toi à ta place. Commence à parler au Saint-Esprit. Peut-être qu'on peut reprendre Yeshua. Commence à parler au Saint-Esprit rapidement, le temps passe. Commence à lui parler pendant la louange, invite-le pendant la louange. Laisse le Saint-Esprit te parler, te convaincre de sa présence. Laisse le Saint-Esprit prendre toute sa place. Oui, Saint-Esprit, merci. Te demandons pardon, Saint-Esprit. Pardon si parfois nous négligeons ta présence. Pardon si parfois nous attristons ta présence. te demandons pardon, Saint-Esprit, de te mettre au second plan et de ne pas te donner la priorité. Te demandons pardon, Saint-Esprit, de ne pas être à l'écoute de ta voix. Ne te demandons pardon, Saint-Esprit. D'avoir bloqué ton œuvre, tes actions dans nos vies. Ce matin, nous voici devant toi, alors que nous élevons les bras. Nous te disons, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens nous remplir, viens nous saisir, viens nous inonder, viens nous saturer de ta douce présence. Nous te disons, viens Saint-Esprit, nous ouvrons la porte de notre cœur, afin que tu puisses établir en nous ta demeure. Te disons, viens Saint-Esprit. Dis-lui ce matin, viens Saint-Esprit, parle-lui, il est là, il t'entend, parle-lui, invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous visites ce matin. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous remplis ce matin. Merci Saint-Esprit, pour le fruit qui va abonder dans nos vies, reflet de ta présence. Merci Saint-Esprit, parce que tu vas œuvrer en nous, tu vas travailler dans nos cœurs, dans nos vies, tu vas révolutionner notre vie, tu vas apporter un changement durable. Merci Saint-Esprit, parce que tu descends dans la vie de ton enfant, pour ne plus jamais, jamais, jamais le quitter. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Honneur à toi, Seigneur. Louange. Adoration. À toi la gloire. À toi la gloire.
Dieu de l'impossible.
Bien, nous arrivons donc à la fin. Il reste qu'à vous remercier et à vous demander de vous lever pour terminer, comme nous avons commencé, c'est-à-dire avec le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom pour avoir été avec nous, bénir ton nom pour nous avoir bénis par ta présence, mais aussi par le message de ta parole. Seigneur, aide-nous à grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit, dans la connaissance de sa personne, dans la connaissance de la manière dont il interagit avec nous, car nous sommes son temple, ton habitation en esprit. Aide-nous, Seigneur, à nous investir totalement et entièrement, Seigneur, dans cette relation de grande proximité avec ton esprit. Merci pour tout. Merci de venir cette semaine, de nous précéder dans nos différentes activités. Merci de venir également le retour de ton serviteur et du pasteur Eric, Seigneur, qui vont prendre leur vol ce soir. Nous prions pour que tu les accompagnes, Seigneur, et que tout se passe comme il faut. Merci pour tout. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous. Allons dans sa paix et demeurons dans sa victoire. jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente semaine et au plaisir de vous revoir en semaine et le dimanche pour notre grande célébration. Merci.